Chapitre 38. La bataille de la cour carrée. La porte était fermée. Akan actionna la poignée de fer, mais elle était bloquée. Mordelia consulta le plan avec le chef du tipi pendant que tous les enfants, formant une longue procession armée, patientaient derrière eux dans le couloir sombre. La carte ne laissait planer aucun doute. Ils se trouvaient sous le château, et cette lourde porte de bois commandait l'entrée des ruines du donjon. C'était par cette porte que Zizo s'était échappé. Pourtant, elle refusait de s'ouvrir. Qu'est-ce que cela signifiait? Un piège? Le plan indiquait un autre passage. En continuant d'emprunter le couloir, on parvenait à un tunnel, puis à un escalier qui semblait lui aussi mener aux entrées du château. Akan fit signe à tous les enfants du tipi de se taire. Tout était silencieux au-dessus de leur tête, de l'autre côté des épais murs de pierre, derrière les portes. « Ils dorment !» chuchota Mordelia d'une voix irritée. « Il nous suffit de trouver un passage. Si cette porte ne s'ouvre pas, on entrera par une autre. » Akan continuait de guetter le moindre bruit. « De quoi as-tu peur, Akan ?» siffla encore Mordelia. « Nous sommes nombreux, armés, déterminés. Il ne peut rien nous arriver. » Akan ne répondit rien. Il étudia une nouvelle fois le plan, puis fit signe à la troupe d'avancer. La longue colonne d'enfants équipée de pierres et de pieux s'étira dans le couloir, tel un long serpent silencieux, cherchant le moindre trou pour se faufiler, ramper et planter ses crocs venimeux dans sa proie. Zizo fermait toujours la marche, tenant la main de Chrysante. Désormais, il se repérait. Il réalisait qu'il venait de quitter le chemin de sa fuite nocturne. La porte du couloir du pavillon des savants, entre le donjon et le sphinx, celle par laquelle il s'était évadé, avait été bloquée. Quelqu'un avait-il donc voulu les dévier vers une autre direction? Zizo reconnaissait pourtant chaque détail. Le mur blanc aux pierres décollées, les peintures sur les parois, l'odeur d'humidité, il avait déjà marché dans ce couloir. Il fit travailler sa mémoire alors que les enfants devaient se courber pour avancer dans le tunnel. À l'avant du convoi, Akan était obligé de s'accroupir plus encore que les autres, et le tunnel devenait plus étroit maintenant. Il gardait cependant espoir. Il apercevait une lueur droit devant, et surtout, le souterrain sinueux remontait, signe qu'il progressait et qu'il se rapprochait du rez-de-chaussée du château. Il chuchota à l'oreille de Mordelia de se tenir sur ses gardes, de conserver ses armes au poing. Mordelia passa le message à Bill, qui le transmit à son tour au guerrier derrière lui. Tous les enfants étaient prêts à se défendre, quoi qu'il arrive. Le couloir s'achevait par un escalier de fer. Akan scrutait toujours le point clair en haut des dernières marches. Une odeur lui chatouillait les narines depuis quelques minutes. Et il parvenait enfin à la définir, c'était un mélange de feuilles de tilleul et de platane porté par un vent frais. L'odeur des arbres de la ville, l'odeur de l'air libre. Cet escalier ne menait pas à une autre cave, une chambre ou une autre galerie, il débouchait dehors. En dernière position de la procession, Zizo traînait. Il se souvenait désormais. Le long couloir, le tunnel étroit, il était déjà passé ici, une fois, avec Alix, il y a de nombreux mois, quand il s'était enfui avec elle une nuit pour marcher dans la ville, jusqu'à Montmartre. Chrysante se faufilait avec agilité dans le tunnel, serrant sa main, comme Alix l'avait fait lors de cette nuit d'été. Zizo se rappelait parfaitement du parcours maintenant. Ils avaient longé ce même couloir, emprunté le même tunnel, puis avaient remonté un escalier de fer et étaient parvenus dans la cour carrée. Akan n'avait plus aucun doute. Plus il gravissait les marches et plus il comprenait qu'il se retrouverait au pied du château. En levant la tête, tout en haut de l'escalier, il apercevait même les dernières étoiles du matin peintes sur un ciel orangé. Tout était cependant silencieux. Ça ne changeait rien à leur plan, à l'effet de surprise ni à la force de son armée. Ils étaient parvenus à s'approcher au plus près du château sans être repérés. Ils étaient suffisamment armés pour mener n'importe quel assaut. Encore quelques marches. Akan, puis Mordelia, puis Bill, puis tous les autres enfants sortirent du long escalier, franchirent une porte étroite et écarquillèrent les yeux.
« La cour carrée !» murmura Mordelia en observant le plan.
Autour d'eux, les bâtiments du château formaient un carré parfait, seulement percé par 4 portes voûtées mais grillagées. Le ciel du matin recouvrait la cour d'un toit encore sombre, mais qui s'éclaircissait seconde après seconde. Après leur longue marche souterraine, les enfants du tipi respiraient à plein poumon. Heureux, ils n'étaient pas faits pour vivre enfermés.
Bande d'inconscients,
pensa Mordelia. Elle détestait se retrouver coincée dans cette cour entourée de murs hauts de 3 étages où dormaient les enfants du château. Ils s'avancèrent encore un peu. Tous les enfants du tipi se tenaient debout dans la cour désormais, la plupart postés autour de la grande fontaine centrale. Akan leva le bras, indiquant ainsi de respecter le silence le plus absolu. Il cherchait des yeux une ouverture, la porte la moins solide qu'il pourrait forcer, la fenêtre la plus accessible qu'il pourrait briser. N'importe quel moyen pour entrer pendant que les enfants du château étaient encore dans leur lit, pendant qu'il faisait encore presque nuit. D'un coup, le soleil se leva. Ce fut ce que les enfants dans la cour crurent, clignant des yeux devant la soudaine clarté. D'un coup, des centaines de bougies aux fenêtres s'étaient allumées, à tous les étages, sur chacun des 4 côtés. Le spectacle en était presque magique. En une fraction de seconde, les enfants découvrirent les façades de 3 étages décorées de fresques en relief et de colonnes de pierre, les centaines de statues décorant les murs. Chaque centimètre des 4 côtés de la cour semblait avoir été sculpté avec un soin infini. Les enfants du tipi demeurèrent quelques secondes bouche bée devant la beauté de ce qu'ils découvraient. Les lumières aux fenêtres étaient aussi hypnotiques que les rayons du soleil de fer éclairant la ville lors du birthday ou la cathédrale lors de la veillée du sanctuaire.
« Aux armes !»
cria Akan. Les enfants du tipi, immédiatement, sortirent de leur léthargie. Ils s'accroupirent, serrèrent leurs armes, se réfugièrent derrière les quelques boucliers d'écorce qu'ils avaient pu transporter, scrutant les 4 murs et les centaines de fenêtres autour d'eux. Dans la seconde suivante, les enfants du château apparurent. Nullement endormis. Presque tous positionnés au 3e étage, à une hauteur quasi inaccessible pour un jet de lance ou de pierre. Ils étaient des dizaines de garçons et de filles, dont les enfants du tipi n'aperçurent d'abord que les visages, puis les épaules, puis les 2 bras, l'un tendu et l'autre replié. Chacun d'eux bandait un arc, et chaque flèche était dirigée vers l'un des enfants postés dans la cour. S'ils tiraient tous en même temps, presque tous les enfants du tipi tomberaient, mortellement touchés. Une seconde volée de flèches, et les survivants seraient tués, aussi impuissants à se défendre que des insectes prisonniers dans une boîte et se heurtant aux parois. Même s'ils essayaient de fuir, de sortir par l'étroit escalier par lequel ils étaient entrés, presque tous seraient abattus avant d'avoir pu se sauver. À l'exception du rebord de la fontaine, haute de moins 1 mètre, la cour carrée ne fournissait aucun abri. Les enfants du tipi restèrent un long moment ainsi. Ils retenaient leur souffle, espérant que les archers aux fenêtres ne tirent pas, que ce ne soit qu'une menace. Zizo, accroupi dans un coin de la cour, serrait le maigre corps de Chrysante entre ses bras, pendant qu'elle-même serrait sa poupée. Vanille se tenait cachée à côté d'eux, les yeux exorbités. Elle avait sans doute déjà calculé qu'il y avait autant d'archers aux fenêtres que d'enfants dans la cour carrée.
« Ne crains rien, » murmurait-il à Chrysante. « Ne crains rien. »
Et Chrysante répétait les mêmes mots à sa poupée. « Ne crains rien, ne crains rien. »
« Suis-je devenu fou ?»
se demandait Zizo, fixant, incrédule, les archers aux fenêtres ouvertes des 4 côtés de la cour carrée. Ces enfants étaient-ils les enfants du château qu'il connaissait ? Comment ces élèves soldats pouvaient-ils être armés ? Et le premier commandement de Marie-Lune, bafoué ? Étaient-ils tous devenus fous ? Ou les enfants du château étaient-ils des monstres qui, depuis le début, lui avaient menti ? Une nouvelle fenêtre s'ouvrit au 3e étage, face à eux, la seule disposant d'un balcon au centre du pavillon qui longeait le fleuve sous une corniche triangulaire. Les guerriers du tipi, les yeux levés, virent s'avancer sur le balcon un étrange enfant assis dans une chaise roulante, Il observa la scène et parla d'une voix forte qui contrastait avec son apparente fragilité.
« Amis du tipi, écoutez-moi, nous ne vous voulons aucun mal. Vous êtes entrés chez nous, de nuit, armés, mais nous n'avons contre vous aucune hostilité. Je n'ai qu'un mot à dire pour que mes soldats vous abattent, mais nous ne vous ferons aucun mal, sauf si vous nous y obligez. »
Akan s'était avancé sous le balcon, seul, armé d'une lourde lance de chêne.
« Je t'écoute !»
fit Akan d'une voix plus forte encore.
« Je vais vous demander deux choses, » continua Augénor, « de simples choses pour assurer notre sécurité. »
Sa voix semblait rebondir sur les quatre murs de la cour carrée.
« Déposez vos armes tout d'abord, à vos pieds, puis vous sortirez, les mains posées sur la tête, par la porte que nous ouvrirons face à vous. Vous sortirez lentement, un par un. »
« Et ensuite ?» interrogea Akan.
« Chacun d'entre vous sera conduit dans un appartement sécurisé. On vous y délivrera un enseignement personnalisé, et quand on vous jugera apte, nous vous laisserons ressortir. »
Un murmure parcourut la cour carrée. Les enfants du tipi demeurèrent immobiles, mais leurs yeux ne cessaient de fixer les mains crispées sur les arcs alors que leur cerveau tentait d'analyser ce que l'enfant dans son fauteuil venait d'annoncer. Akan planta sa lance dans le sol pour bien montrer qu'il ne comptait pas déposer les armes.
« Ami du château, ce que tu appelles des appartements sécurisés, ce sont des prisons. Des prisons à vie si nous n'acceptons pas de vous obéir, de croire en vos théories, d'adopter votre mode de vie, de respecter vos lois. C'est bien cela ?»«
C'est bien cela, l'ami, » confirma Augénor.
Dans la cour carrée, les murmures se transformaient en bourdonnements. Le jour avait continué de se lever et la cour baignait dans une douce luminosité. Akan réfléchissait, et il savait que chaque enfant du tipi réfléchissait avec lui. Quel choix possédait-il? Refuser? Résister, c'était mourir. Rendre les armes, lever haut les mains, se laisser enfermer un par un représentait une humiliation terrible. Mais s'il effectuait tout autre choix, les enfants de sa tribu mourraient. Il était leur chef depuis toujours, pour les guider, pas pour les conduire à la mort. Le plus grand courage n'était-il pas d'accepter la défaite? Lentement, les doigts d'Akan s'ouvrirent. La lance qu'il tenait fermement tint un court instant en équilibre, puis vacilla. Elle allait tomber. Le bruit de sa chute serait suivi de celui de toutes les autres armes des enfants du tipi. C'était fini. Le combat allait cesser avant même d'avoir commencé. Aucun bruit ne se produisit. La lance ne tomba pas. Mordelia s'était avancée en silence derrière Akan. Elle tenait toujours la lance de corne d'antilope offerte par Bill, mais avait rattrapé celle d'Akan avant qu'elle ne tombe. Elle fusilla le chef du tipi du regard, comme s'il avait définitivement perdu toute crédibilité à ses yeux. Quelle estime avoir pour un lâche, capable de laisser emprisonner et torturer tous les enfants de son camp sans même se battre. Mordelia s'avança encore, les deux lances à la main, et se tint sous le balcon.
« Moi aussi, l'infirme, j'ai une question à te poser. »
Cette fois, ce fut aux fenêtres du château que les murmures grandirent. Personne n'avait jamais osé appeler Augénor l'infirme ou le handicapé. Cette fille enveloppée dans sa cape noire ressemblait à une sorcière sortie d'un conte de fées.
« Approche, montre-toi, » continua Mordelia. « Tu dois bien au moins pouvoir te pencher pour me regarder dans les yeux. »
Augénor, impressionné par la détermination de la fille, fit rouler ses roues de quelques centimètres supplémentaires sur le balcon, puis pencha son torse maigre par-dessus la rambarde.
« Voilà, l'ami, que veux-tu ? »
Avant même que quiconque ait pu réagir, Mordelia projeta en avant ses deux bras. Les deux lances torsadées s'élevèrent en parallèle dans le même vol en direction du balcon. Tout se passa très vite alors, dans la confusion la plus totale. Avant que les lances de Mordelia n'atteignent leur cible, Jeanne d'Arc, en poste à la fenêtre voisine d'Augénor, décocha sa flèche. Elle se brisa sur le pavé à quelques centimètres de la jambe droite de Mordelia, alors que les deux lances s'écrasaient contre les colonnes de pierre sous le balcon, sans toucher Augénor qui s'était vivement reculé. Dans la cour carrée, un tigre avait bondi. King Bill. Son sang avait bouilli, la rage incendiait toute autre pensée. Mordelia avait failli être tuée. La prochaine flèche serait fatale, toutes les prochaines flèches seraient mortelles. Il ne pouvait pas se laisser assassiner sans réagir.
« Avec moi, le tipi !»
cria-t-il soudain, sa lance d'antilope au poing. Portés par la peur, la folie et le désespoir, les enfants du tipi se levèrent en criant, et dans un même élan, coururent en tous sens dans la cour carrée.
« Dispersez-vous !»
ordonna Bill.
« Ne vous arrêtez pas ! Courez, courez ! Accrochez-vous au mur et grimpez !»
Les enfants sprintaient dans la cour carrée comme des fourmis affolées. Ceux qui étaient habillés d'encombrantes peaux d'animaux, hyènes, facochères ou tatous, les laissèrent tomber. Aux fenêtres, les archers hésitaient encore à tirer. Contrairement aux autres enfants, Zizou était resté accroupi dans un coin de la cour, protégeant toujours Chrysante, guettant désespérément un signe d'espoir à une fenêtre. N'y avait-il personne chez les savants ou chez les singes pour empêcher ce massacre? Une première flèche siffla d'une fenêtre et se planta dans le bras de Caméliane, qui hurla de douleur. Au lieu de freiner la volonté des enfants du tipi, le cri déchirant de leur ami la décupla. Quelques rares enfants du tipi restèrent immobiles, Zizo, Chrysante, Akane et une petite dizaine de garçons et de filles, pétrifiés. Tous les autres, à l'inverse, se déplaçaient avec une agilité que les enfants du château n'avaient sans doute pas anticipée. Habitués à escalader les poutres de fer du tipi, les plus rapides s'accrochaient aux statues et atteignaient déjà les fenêtres du premier étage. Les archers d'en face semblaient hésiter à décocher une flèche dans le dos d'enfants de leur âge. Une indécision fatale? Wayne et Cheyenne saisirent les rambardes des fenêtres entre le deuxième et le troisième étage, poignards serrés entre leurs dents. Deux beaux s'abattirent sur leurs doigts. Wayne et Cheyenne lâchèrent immédiatement leur prise en hurlant et tombèrent à la renverse, 3 mètres plus bas, se cognant le dos au pavé en se tordant de douleur. Profitant de l'agitation, Mook lança avec précision l'une des pierres qu'il portait dans son lourd sac, parvint à briser une fenêtre et sans doute à toucher un archer. Dans la seconde qui suivit, une flèche se ficha dans sa cuisse. Il s'écroula, foudroyé. Plus que d'effrayer les enfants du tipi, ses premiers blessés renforçaient au contraire leur fureur. Bill les exhortait à combattre, criant, relevant les enfants épouvantés, poussant les moins audacieux à prendre tous les risques. Tous s'agitaient dans une panique de survie, telles des mouches coincées dans un bocal, courant frénétiquement dans la cour fermée, tentant maladroitement d'escalader les murs.
« Non !»
hurla soudain Zizo. Son cri se perdit parmi tous ceux qui rugissaient dans la cour. Seul Akane l'entendit. Zizo avait repéré au troisième étage qu'Augénor et Jeanne d'Arc, à quelques fenêtres d'intervalle, communiquaient par signes. Au léger hochement de tête du conseiller assis dans son fauteuil, le délégué des soldats avait répondu en levant son bras. Zizo, les yeux exorbités, comprit que les dizaines d'archers aux fenêtres n'attendaient plus qu'un ordre de leur chef. Dès que le bras de Jeanne d'Arc se baisserait, une pluie de flèches tomberait, et il ne s'agirait plus de viser les jambes et les bras. La pluie s'abattrait pour tuer. Augénor a pris sa décision, paniqua Zizo. Tirez! Et Jeanne d'Arc allait obéir à son conseiller, pour imposer un rapport de force. Au-delà de la raison. Au-delà de tout ce que les cours d'histoire de Marie-Lune leur avaient appris. La guerre, à nouveau, éclatait. Tout recommençait. Zizo vit le bras de Jeanne d'Arc se baisser doucement. Il n'eut pas la force de regarder la suite, de voir ses amis de toujours s'écrouler, transpercés. Il se contenta de presser Chrysante contre sa poitrine et de se rouler en boule autour d'elle pour la protéger s'ils étaient visés. Ils le seraient tous. Ils allaient mourir. Tous. Tant pis, pensa Jeanne d'Arc du haut du troisième étage. Ces satanés enfants de la tour l'ont cherché. Dans une seconde, les archers tireraient au hasard une 40aine de flèches. Puis armeraient à nouveau leurs arcs. Combien de morts faudrait-il pour qu'enfin ces enfants sauvages se calment? Une dizaine? Une vingtaine? Faudrait-il tous les tuer? Pourquoi n'avait-il pas accepté de se rendre, comme Augénor, Isalis et lui l'avaient prévu? Pourquoi cette sorcière avait-elle défié Augénor? Il cessa soudain de réfléchir. Il savait que les yeux des enfants soldats étaient tous braqués sur lui. Il devait prendre la décision la plus importante de sa vie. Après, plus jamais il ne serait un enfant. Il garda le bras en l'air et regarda une dernière fois les enfants du tipi, éparpillés, armés, enragés dans la cour carrée. Des animaux fous qu'il fallait neutraliser. Tant pis. Tirez. Son geste fut moins rapide que son ordre mental. Le temps que son cerveau commande à son bras et qu'il l'abaisse pour que la mort pleuve. Les quatre portes de la cour carrée s'ouvrirent en même temps. Quatre éclairs blancs surgirent dans la cour aussi lumineux que joyeux. Jean d'Arc, le bras figé en l'air, crut d'abord apercevoir des anges ou des fantômes. Il mit quelques secondes à reconnaître les silhouettes blanches qui couraient de tous les côtés, pieds nus, longs cheveux au vent, corbeilles d'osier portées à la taille, d'où elle puisait des pétales de fleurs qu'elle lançait en pluie parfumée multicolore. Les Lolly Girls. Jean d'Arc, le bras toujours levé, toussa et eut du mal à reprendre sa respiration. Les Lolly Girls. Elles étaient une vingtaine, accompagnées de quelques garçons savants ou singes, toutes vêtues de leurs amples tuniques blanches. Elles se dispersèrent dans la cour carrée en un élégant ballet, apparemment désordonné, mais qui, en réalité, empêchait tout tir de flèche sur les guerriers sans qu'elles risquent d'être touchées. « Des boucliers !» pensa Jean d'Arc, les muscles du bras au bord de la crampe. « Des boucliers vivants !» Et dansant, et chantant. Dans la cour carrée, les enfants du tipi observaient, hébétés, cette stupéfiante apparition, se demandant si ces filles étaient réelles ou non. Aux fenêtres, les archers interrogeaient leur chef du regard qui lui-même guettait les gestes d'Augénor. Tous pensaient la même chose. Impossible de tirer, impossible sans risquer de blesser les Lolly Girls. La voix du conseiller assis dans son fauteuil roulant tonna au balcon.
« Poussez-vous, les filles! Écartez-vous! Vous allez...
Coucou, Nanor !»
cria Sabi en agitant la main.
« Coucou, Jeannot! Oh, Zaza, tu es là aussi !»
Isalis se tenait en retrait derrière une fenêtre à gauche du balcon de Génor. Toutes les filles derrière Sabi éclatèrent de rire. Les enfants du tipi s'étaient immobilisés, cherchant à comprendre la scène surréaliste qui se jouait.
« Tu sais quoi, Zaza ?» continua Sabi sur le même ton moqueur. « On n'a pas retrouvé le tableau, mais on a tout compris. Les Sabines ont essayé d'arrêter la guerre en se plaçant entre les deux tribus voisines. S'ils voulaient s'entretuer, ils devaient les tuer aussi. Et tu sais quoi, Zaza? Elles ont réussi !»
Des cris de joie ponctuèrent la bravade de Sabi, dans une nouvelle pluie de pétales roses, blancs et rouges. Le parfum de lavande et de vanille des filles emplissait la cour carrée.
« Petite gamine stupide !»
pesta Augénor. Il se pencha encore et manqua de s'étrangler. Au milieu des Lolly Girls, il venait de reconnaître Alix, sans couronne, mais faisant voler fièrement sa longue robe immaculée. Il y eut alors un moment de flottement. Une parenthèse étrange, comme si le temps s'était suspendu. Les pétales de fleurs s'échouaient doucement sur le pavé, le sol se teintait des mêmes nuances roses que le ciel du matin. Les bras accrochés aux arcs bandés se détendaient, les doigts se desserraient. Les enfants du tipi s'interrogeaient. Akan fit signe aux enfants accrochés aux statues des façades de redescendre et de se regrouper au centre de la cour, près de la fontaine. Les Lolly Girls poursuivaient leurs arabesques de ballerines pour qu'aucun enfant de la cour ne puisse être pris pour cible.
« Alix !»
Le cri provenait d'un coin de la cour. Alix se retourna. Zizo se leva d'un bond, abandonnant Crisante. « Peu importait de la laisser seule, » pensa le garçon, maintenant que tout danger était écarté. Alix et Zizo coururent l'un vers l'autre, comblant en quelques foulées l'espace qui les séparait. Zizo accueillit sa reine au creux de ses bras et la fit tournoyer, pieds décollés. Alix embrassa son petit prince sur les lèvres, un tout petit bisou de rien du tout, avant de rejeter sa tête en arrière et de regarder les autres murs et le ciel danser. Les Lolly Girls redoublèrent de cris de joie, tandis que tous les enfants du tipi regardaient les amoureux comme s'ils voyaient une fille et un garçon s'embrasser pour la première fois. D'ailleurs, c'était le cas. Au coin de la cour, Noam, l'enfant muet, était venu prendre la place de Zizo auprès de Chrysanthe. La fille, les mains crispées sur sa poupée, ne lui adressa pas un regard, hypnotisée par la valse de la reine et du prince. Des larmes perlaient au coin de ses yeux. Du haut de son balcon, Ogenor essayait d'analyser la situation. Il tentait d'enregistrer chaque détail, de calculer la position de chacun. Les enfants du tipi, debout dans la cour, ne comprenant plus rien, laissant leurs armes pendre au bout de leurs mains comme autant d'objets trop lourds devenus soudain inutiles. Jean d'Arc, dont le bras faiblissait mais que plus aucun soldat ne regardait. Les Lolly Girls aux yeux pétillants, les archers aux fenêtres qui n'avaient qu'une envie, rejoindre les filles et se mêler à la fête. Après tout, pensait Ogenor, beau joueur, ces filles complètement dingues avaient obtenu avec leur culot ce qu'il avait cherché à obtenir par la ruse, faire admettre à ces brutes du tipi que l'éducation du château, leur civilisation, valait mieux que leur vie de petits sauvages. Zizo et Alix se tenaient par la main tout près de la fontaine. Lunella, Estive et Soutime dispersaient en confettis les derniers pétales de fleurs. Sabi avança tout sourire vers le garçon déguisé en tigre qui ressemblait à un gros nounours maladroit avec sa drôle de lance en forme de serpentin trop grande pour lui.
« Tu n'as pas chaud là-dessous, mon tigrou ?»
Tout bascula très vite alors. Sabi sentit une arme tranchante se poser sur son cou. Elle se retourna. La corne s'enfonça dans sa chair, quelques gouttes de sang giclèrent.
« Ne bouge plus !»
cria la sorcière à la cape noire.
« Ou je te saigne comme une poule !»
Mordelia la menaçait de sa lance d'antilope. Un seul geste de la part de Sabi, et elle enfonçait la pointe torsadée dans sa carotide.
« Regroupez-vous derrière les filles !»
cria Bill.
« Regroupez-vous !»
Les enfants du tipi obéirent sans forcément comprendre. Quelques guerriers, les derniers vêtus de fourrure d'animaux sauvages, s'étaient approchés des Lolly Girls. Ils les attrapèrent violemment par la taille ou les cheveux et les forcèrent à se rassembler par groupes de trois ou de quatre pour former de petits cercles derrière lesquels les enfants du tipi pourraient se cacher. Bill fit quelques pas rapides vers le centre de la cour, enjamba la fontaine et abaissa sa lance dans le creux du dos d'Alix.
« Si tu bouges, si l'une de vous bouge, je plante ma corne entre tes côtes !»
Zizo serra les poings, prêt à sauter à la gorge de l'enfant-tigre.
« Maintenant, on peut négocier !»
annonça Bill en levant les yeux vers le balcon. Les enfants du tipi continuaient de se réfugier derrière les Lolly Girls. Akan, le seul à ne pas s'être servi d'une des filles comme bouclier, avança à découvert vers le balcon d'Ogenor. Tous les guerriers admirèrent son courage.
« Ces filles sont venues en paix !» cria Ogenor en se redressant autant qu'il le pouvait sur son fauteuil. « Et vous les prenez en otage !»
Akan leva les yeux et haussa la voix.
« Ces filles appartiennent à votre château, et nous ne leur faisons pas confiance. Vous nous avez tendu un piège. Vous nous avez affamés en empoisonnant notre nourriture. Vous avez assassiné les enfants que nous avons envoyés dans la forêt. Vous nous traitez comme des animaux sauvages que vous aimeriez domestiquer. Nous refusons de finir notre vie dans une cage, soit-elle aussi grande que notre tipi. »
Ogenor se pencha cette fois sans crainte au balcon. Akan était désarmé.
« Tes accusations sont graves, l'ami.
Elles sont fondées. Tu as vu toi aussi nos oiseaux tomber comme des pierres le soir de la veillée du sanctuaire. Sans oiseaux, sans gibier, sans eau, nous mourrons. »
« Nous n'y sommes pour rien, »
affirma Ogenor.
« Nous-mêmes sommes inquiets. Nous avons envoyé une délégation en forêt pour nous aider à... »«
Menteur !»
cria soudain Mordelia.
« Pas pour nous aider, pour nous tuer, pour tuer ceux qui pourraient découvrir la vérité !»
Comme enragée, Mordelia fit tournoyer la lance qu'elle pointait sur le cou de Sabi et pour la seconde fois, la projeta en direction du balcon. Jean d'Arc se méfiait. Avant même qu'elle n'esquisse son geste,
il avait bandé son arc et tiré. La flèche siffla et se planta dans l'épaule gauche de Mordelia. La sorcière hurla de douleur, mais ne fléchit pas et d'un geste plus rageur encore, l'arracha, cracha sur le sang qui dégoulinait de la pointe acérée, et sans réfléchir davantage, la planta dans l'épaule de Sabi. La loligirl tituba sous le choc et tomba à genoux, le visage déformé par la douleur. La lance retomba sur le pavé de la cour, brisée en deux.
« Tuez-les toutes !»
ordonna Mordelia. Les loligirls hurlèrent de terreur. Les guerriers du tipi hésitaient. Jeanne d'Arc se tenait prêt à faire enfin pleuvoir la pluie de mort dans la cour s'il touchait au moindre cheveu d'une des filles.
« Menteur !»
hurla encore Mordelia.
« Menteur ! Vous voulez nous tuer comme vous avez tué les oiseaux !»
Bill accentua la pression de sa lance dans le dos d'Alix. Wayne et Cheyenne, bras en sang, visage griffé, mais bien campés sur leurs jambes, approchèrent, l'un avec son pieu, l'autre avec son poignard, à quelques centimètres du dos d'Estive et du cœur de Lunella. Jeanne d'Arc ordonnerait de tirer dès le premier coup porté. Qui serait le premier à provoquer l'escalade macabre? Qui serait le premier assassin, avant que tous ne se transforment en tueurs? Plusieurs fenêtres du deuxième étage s'ouvrirent alors. De nouveaux enfants apparurent, presque tous étaient également vêtus de blanc. Des blouses de savants. Valère, Osman, Liu, Moebia et tous les autres enfants du pavillon des savants posèrent sur le rebord de la fenêtre de petites cages d'osier, puis tirèrent sur un cordon qui libérait la grille. Chaque cage renfermait trois colombes, pigeons ou tourterelles. Les oiseaux s'envolèrent dans le même mouvement. « Nous les avons sauvés !» expliqua sobrement Liu à la fenêtre. « Nous les avons recueillis lors de la veillée du sanctuaire. Nous les avons étudiés. Nous les avons soignés. Ils sont guéris. Ils peuvent voler !» Les enfants du tipi écoutèrent avec étonnement les paroles de ce drôle d'enfant aux yeux bridés derrière ses petites lunettes, mais surtout suivirent entre ciel et toit le vol joyeux des dizaines d'oiseaux.
« Ils les ont sauvés ?» répéta Mook.
Noam lâcha la main de Chrysanthe pour applaudir.
Ainsi, pensa Alix, c'est ce que les enfants savants cachaient dans leur laboratoire.
Agnelle aurait adoré voir ça,
murmura Zizo. Des couples de colombes se posaient en équilibre sur les gouttières, alors que d'autres préféraient filer sous le nez et à la barbe des statues, ou voler en rase-motte dans la cour carrée pour examiner ces drôles de pétales roses sur le sol.
« Nous sommes alliés !» continua Liu. « Tous alliés ! Nous pouvons apprendre de vous autant que vous pouvez apprendre de nous !»
Mordelia cria plus fort encore.
« C'est un piège ! Un nouveau piège ! Vous avez tué les enfants de la forêt ! Vous les avez dévorés !»«
Nous ne mangeons aucun animal !» répondit Liu.
« Alors, pourquoi tuez-vous les enfants ? Pour les abandonner aux loups ?»
Tous les enfants dans la cour écoutaient la violente dispute sans parvenir à détacher leurs yeux du vol gracieux des oiseaux. Aucun enfant n'avait remarqué que la plupart des archers avaient déserté les fenêtres, répondant à l'ordre discret de Jeanne d'Arc. Le délégué des soldats avait décidé très vite d'adopter une nouvelle stratégie. Le tigre et la sorcière étaient des fous impossibles à raisonner, et il avait compris qu'une partie des enfants du tipi les suivrait jusqu'au bout. Impossible aussi de tirer des flèches des fenêtres sans risquer de blesser les loligirls. Il avait alors choisi de ne conserver que quelques archers aux étages et de faire descendre très vite le gros de ses troupes par les escaliers. Même avec leurs pierres et leurs piques, les enfants sauvages ne feraient pas le poids contre ces soldats d'élite entraînés depuis des années à manipuler leurs bows.
« Vous ne nous éliminerez pas !»
cria encore Mordelia. Quatre autres portes volèrent d'un coup. Plus de 30 enfants armés de bows se précipitèrent dans la cour, sortant de chaque direction.
« Aux armes !»
hurla Bill. Des dizaines de combats s'engagèrent alors simultanément, transformant la cour carrée en un immense champ de bataille où les duels au corps à corps se multipliaient. Akan se posta devant la porte sud, et de ses seules mains nues, bloqua Helios, Idris et Django, trois enfants soldats qui surgissaient bows en main.
Les coups de bâton pleuvaient, mais Akane les encaissait comme s'il s'agissait de simples coups de polochon, les bloquait à la force de ses bras et repoussait violemment chaque enfant qui essayait de s'approcher. Plusieurs enfants soldats rejoignirent les trois premiers, mais la puissance herculéenne du chef du tipi les obligeait tout de même à reculer. Bill pointait toujours sa lance torsadée sur le dos d'Alix. Dès qu'il aperçut les enfants soldats pénétrer dans la cour, son premier réflexe fut d'embrocher la fille qui tremblait devant lui comme un poulet pour se défendre ensuite. Il assura sa prise sur le manche de sa lance pour mieux la transpercer, quand deux mains agrippèrent son arme.
Zizo.
Ce traître ne fera pas longtemps le poids, pensa Bill. Mais l'avorton s'accrochait à sa lance avec l'énergie du désespoir pour protéger cette fille qu'il venait d'embrasser. Rien que d'y repenser, Bill enrageait plus encore sous sa fourrure de tigre. La fille avait reculé d'un pas.
Attrapé !
Du deuxième étage, Valère et Haussmann se penchèrent à la fenêtre. Ils tenaient deux bâtons qu'ils lâchèrent. Leur beau. Alix, d'un bond vif et souple, attrapa le premier. Elle serra ses mains avec une force animale sur son beau de bambou. Zizo lâcha d'un coup la lance d'antilope pour saisir la seconde arme tombée sur les pavés, son beau de rosier. Alix et Zizo échangèrent un bref regard complice et, unis dans une même énergie, les deux amoureux se mirent en position pour parer les assauts de Bill, qui maniait de façon désordonnée mais surpuissante sa lance de corne, avançant, suant, soufflant, désormais plus taureau que tigre. Sabi pleurait, à genoux, blessée, désespérée, épuisée, elle tentait d'arracher la flèche plantée dans son épaule. Du sang inondait sa robe blanche, coulait sur sa poitrine, formant une fleur rouge sur son cœur. Mordelia la regarda un instant avec mépris, puis attrapa à pleine main une touffe de ses longs cheveux et tira sa tête en arrière. Sabi eut l'impression que son cou allait se briser. Elle supplia, mais sans aucune pitié. Mordelia leva le morceau brisé de sa lance, dont il ne restait plus qu'une corne tordue et tranchante, pour la planter dans la poitrine de la Lolly Girl. En plein cœur de sa fleur. Un sourire déforma le visage de Mordelia alors qu'elle s'apprêtait à sacrifier cette diablesse. Sabi hurla. Mordelia éclata de rire, puis baissa d'un geste rapide son poignard de corne. Quelques centimètres avant qu'elle n'atteigne la poitrine de Sabi, une furie se jeta sur son bras. Lunella ! La jumelle, déchaînée, mordit à pleines dents le bras de la sorcière qui, à son tour, hurla mais ne lâcha pas son poignard. Toutes les deux roulèrent dans la poussière du pavé. La cour n'était plus que combat. Dans un premier temps, les enfants soldats de Jean d'Arc, organisés et disciplinés, prirent rapidement l'avantage, profitant de l'effet de surprise et de leur science du combat. Les coups de beau s'abattaient en cadence sur les enfants du tipi, obligés d'abandonner en catastrophe les Lolly Girls derrière lesquelles ils se protégeaient pour répliquer. Ils se retrouvèrent progressivement isolés en groupes de quatre ou cinq, les jambes fauchées par les beaux, les bras cinglés dès qu'ils voulaient porter un coup. La portée des bâtons des enfants soldats leur permettait de frapper sans être directement exposés. Mais, petit à petit, les enfants du tipi se rendirent compte que les coups de beau n'étaient pas mortels, tant que les enfants soldats n'osaient pas les frapper à la tête. Si un enfant du tipi tombait, balayé par un bâton, il se relevait, les genoux simplement écorchés. Une bosse, une plaie, un hématome. Ça ne l'empêchait pas de pointer encore et encore son poignard de bois aiguisé. Quelques enfants du tipi parvinrent à toucher leur adversaire. Mouk planta sa dague de pain dans le bras de Florentine, qui se tordit de douleur. Nadir, couché par terre, alors que Diana tentait de lui frapper le ventre avec son bâton de chêne, lacéra d'un coup de silex sa jambe, de la cheville au genou. Les pics s'enfonçaient, les pierres coupaient, le sang coulait. Les enfants soldats comprirent qu'ils devaient cogner plus fort, entre les jambes, viser le cou, frapper au front. La peur se lisait dans les yeux des soldats du château. Elle les gagnait. Leurs mains tremblaient au fur et à mesure que les guerriers du tipi se muaient en animaux furieux et fiévreux. Encerclé par six enfants soldats, Akane saisissait chaque beau qui tentait de le frapper et le cassait sur ses cuisses avant de le jeter derrière lui, comme s'il s'agissait d'une simple allumette. Plusieurs enfants soldats commencèrent à renoncer à l'attaquer et s'enfuirent, paniqués devant cet ogre invincible. Helios lui-même avait reculé, abandonnant Beau, casquette et lunettes, et laissant Novak l'affronter seul. Bill, du bout de sa lance torsadée, était parvenu plusieurs fois à toucher Zizo à l'épaule, à la hanche, à la main, des éraflures bien sûr, mais le coup fatal se rapprochait alors que Zizo fatiguait. Alix continuait de se battre à ses côtés, mais Zizo tentait à la fois de parer les coups de Bill et de la protéger, se plaçant devant elle, se gênant plus que se coordonnant. Allongé, tantôt sur Mordelia, tantôt sous elle, Lunella tenait bon, ses longs ongles enfoncés dans la chair de la sorcière. Elle était parvenue, d'un coup de pied, à éloigner d'elle et de Sabi le poignard de corne. Mais Mordelia, à son tour, se servait de ses dents pour tenter d'atteindre sa peau. Griffures, morsures. Les deux filles continuaient de rouler l'une sur l'autre alors que près d'elle, Sabi tenait toujours la flèche à son épaule ensanglantée, proche de l'évanouissement. Jean d'Arc n'avait pu rester à l'étage sans réagir. Il avait dévalé l'escalier pour prêter main forte à ses compagnons dans la cour. Il se plaça, en rempart, dans le coin nord-est, devant six Loligers terrorisées, serrées les unes contre les autres. Tout comme Akan, il devait faire face à six ennemis, six enfants du tipi armés de haches et de petites épées de silex, mais il maniait son bow avec une telle précision qu'aucun enfant guerrier ne pouvait s'approcher de lui et encore moins le toucher. Entre deux mouvements de bâton, le délégué prenait même le temps de lancer des hochements de tête aux soldats restés en poste aux fenêtres. Partout dans la cour, analysait Jean d'Arc, ses troupes reculaient. Mais il leur restait un avantage. Les archers. En réponse aux ordres imprécis de leur chef, quelques flèches furent tirées plus ou moins au hasard. Presque toutes se brisèrent sur les pavés, ou n'atteignirent que les statues du mur opposé, ricochant sur les hommes de pierre. Mais quelques-unes, tirs intentionnels ou flèches perdues, se dirigèrent vers les rares enfants à l'écart du combat, immobiles et faciles à viser, sans risque de toucher un élève du château. Noam tenta de crier en apercevant la pointe de bois siffler vers eux. Son avertissement muet ne fut d'aucune utilité. Et lui seul s'écarta. Chrysante n'avait rien vu venir. Elle n'esquissa aucun geste, ne poussa aucun cri, n'eut même pas le temps de comprendre le danger lorsque la flèche tirée par un archer anonyme se planta dans son cœur. Sur son balcon, Augénor fut le seul à remarquer le drame, à repérer ce garçon qui hurlait avec des yeux épouvantés sans qu'aucun son sorte de sa bouche. Il comprit alors que c'était la seule solution, les tirs de précision. Partout dans la cour, les enfants du château cédaient du terrain. Jean d'Arc n'aurait pas dû faire descendre ses soldats. La rage était du côté des sauvages. Lentement, Augénor se pencha et tira de son fauteuil l'arme dont il avait jusqu'à présent refusé de se servir. Cette arme plus puissante, plus précise, plus silencieuse que les arcs. Une arme fatale, maniable d'une seule main. Il posa l'arbalète sur ses genoux. Jamais, lorsqu'il avait secrètement demandé à Jean d'Arc de réparer cette vieille arme exposée dans le couloir des appartements de la reine, il n'aurait imaginé s'en servir pour tirer sur un enfant. Il positionna avec précaution le carreau d'arbalète dans l'arme, tout en s'interrogeant. Qui viserait-il en premier? Le chef noir venait de briser un nouveau bow, celui de Novak, d'une simple torsion de ses bras. Le colosse semblait impossible à stopper dans un corps à corps. Mais, aussi fort soit-il, il ne survivrait pas à une flèche en pleine tête. Augénor disposait d'une vingtaine de carreaux. Il pourrait éliminer les meneurs un par un. Avant le géant d'ébène, qui semblait plutôt raisonnable, ne devait-il pas abattre d'abord le tigre incontrôlable, ce fou furieux qui d'ailleurs, d'un coup rageur de lance, venait de briser net le bow de Zizo et s'apprêtait à le transpercer. Abattre le tigre, c'était sauver un enfant du tipi. Était-ce vraiment la priorité? Ne valait-il pas mieux viser la sorcière? Oui. Cette fille en noir était assurément la plus dangereuse du lot, avait compris Augénor. Sauf qu'elle continuait de rouler sur le pavé, accrochée à Lunella. Difficile de l'atteindre sans risquer de toucher la Loligirl. Son choix était fait. Augénor leva son arbalète et, avec concentration, visa le cœur d'Akan. À cette distance, presque immobile, le géant était impossible à manquer. Dans la cour, Mordelia parvint enfin à immobiliser Lunella et lui mordit l'oreille au sang. Alors que la Lolly Girl se contorsionnait de douleur, Mordelia se leva, ramassa sa corne brisée et se précipita sur Sabi presque évanouie. Lunella, impuissante, hurla de peur cette fois.
« Non !»
Sa meilleure amie allait se faire poignarder à 2 mètres d'elle. Ses yeux exorbités s'embuaient déjà de larmes. Un instant, tout se brouilla. Puis, aussi incroyable que cela puisse paraître, le visage de Lunella s'illumina. Sans même lever les yeux, elle avait senti la présence de celui qui, invisible et silencieux, venait les sauver. « Lâche ton arme !» ordonna une voix dans le dos d'Ogénor.
« Je t'en supplie, Ogénor !»
ajouta une seconde voix. Solario et Agnel avancèrent de quelques pas sur le balcon, chacun d'un côté du fauteuil roulant. Leurs cheveux étaient gris de cendre, la peau de leurs bras et de leurs jambes était couverte de suie, leurs vêtements, troués et calcinés, semblaient encore fumés, mais ils avaient essuyé leurs visages, dont la blancheur tranchait avec le reste de leur silhouette noire, pour qu'on les reconnaisse d'un regard.
« Je ne suis pas mort !»
cria Agnel à la foule. Au-dessus de lui, les oiseaux tournoyèrent, soudain plus nombreux, plus audacieux, descendant dans la cour en piqué, rasant les combattants, puis remontant en flèche en frôlant le balcon.
« Nous avons réussi !»
cria à son tour Solario.
« Nous avons trouvé l'origine du mal ! Les animaux de la forêt sont sauvés !»
En bas, le fracas des armes diminua. Derrière Solario et Agnel, 10 enfants avancèrent sur le balcon, main dans la main, Château et Tipi réunis. Braza tenait la main de Suzette, Romagna celle de Gulot. Une chaîne humaine d'enfants épuisés qui paraissaient revenir de l'enfer pour apporter leur message de paix.
« Les enfants du château ne nous ont jamais empoisonnés !»
affirma Agnel d'une voix puissante et claire.
« C'est un accident !»« C'est la chute du soleil de fer qui a tout provoqué !»
enchaîna Solario en écho.
« Les enfants du tipi ne sont pas une menace. Sans eux, jamais nous n'aurions survécu dans la forêt !»
Dans la cour carrée, près de la fontaine, Wayne, qui luttait pied à pied avec son pieu contre un enfant soldat armé d'un fin beau d'érable, cessa d'agiter sa lance. Il plissa les yeux sous son chapeau, dévisageant les filles et les garçons au balcon, puis interrogea Mordelia à quelques mètres de lui.
« Je croyais qu'ils étaient tous morts !»
Mordelia ne répondit rien. Elle aussi fixait le balcon avec obstination, les yeux bloqués sur Agnel et les autres enfants, comme si elle refusait de croire ce qu'elle voyait. Elle tenait toujours sa lance brisée dans son poing, mais Sabi avait profité de la diversion pour ramper et s'éloigner.
« Je croyais qu'ils avaient tous été dévorés par les enfants du château !»
demanda à son tour Cheyenne. Et soudain, Cheyenne laissa tomber son poignard de silex sur le pavé, tout en adressant un grand sourire aux enfants au balcon et un signe de la main à Suzette, l'amie avec qui elle avait partagé son lit de paille depuis qu'elle était née. Wayne lâcha son pieu. Une à une, les armes de pierre, de bois et de fer tombèrent. À leur tour, les enfants soldats lâchèrent leurs bouts.
« C'est un piège !»
cria Mordelia. Quelques regards se tournèrent vers elle, puis se détournèrent. Plus personne ne ferait attention à elle. Plus personne ne croirait à ce qu'elle racontait. Tous avaient failli tuer, être tués, pour un mensonge. La peur était retombée, tous se sentaient si soulagé, si léger, une fois désarmé.
« Un piège !»
répéta Mordelia. Seul Bill, dans son costume de tigre poussiéreux, écoutait encore la sorcière. Il se tenait debout, appuyé comme un vieillard à sa lance torsadée, le regard perdu, alors que tous les enfants commençaient à s'asseoir dans la cour carrée, par terre ou sur le rebord de la fontaine. On s'inquiétait du sang qui coulait des jambes ou des bras. On épongeait, avec des tissus déchirés à la hâte, les blessures superficielles. On massait les muscles endoloris par les coups trop précis. On ramassait les armures d'écorce et les fourrures abandonnées, puis on les étalait pour allonger les plus fatigués. Sabi s'était réfugiée dans les bras de Lunella,
qui, avec une délicatesse de chirurgienne, tentait d'extraire la flèche fichée dans son épaule. Akane passait dire quelques mots à chaque groupe d'enfants du tipi, autant pour les rassurer que pour s'assurer qu'aucun ne gardait d'armes cachées. Jean d'Arc faisait de même avec les enfants soldats, et bientôt, le délégué et le chef se retrouvèrent face à face, regard contre regard. Partout dans la cour, des conversations reprenaient. Quelques rires fusaient. Les Lolly Girls se dispersaient et se remettaient à danser et chanter. Elles virent même apparaître à l'une des fenêtres du troisième étage le visage d'Isalice. La déléguée les gratifia d'abord d'un regard sévère, avant d'esquisser ce qui pouvait presque apparaître comme un sourire, et finit par rapprocher ses deux mains plusieurs fois comme pour les applaudir. Akane et Jean d'Arc firent un pas de plus l'un vers l'autre. Akane était plus grand, mais Jean d'Arc n'avait jamais paru aussi droit et raide. On aurait dit deux statues de pierre. Pendant quelques secondes encore, ils se défièrent, puis, sans qu'il soit possible de dire lequel des deux fut le premier à bouger, à tourner son épaule, à soulever son bras, à tendre ses doigts, ils se serrèrent la main. Un tonnerre de cris de joie explosa dans la cour carrée. La guerre était terminée, avant même d'avoir commencé, d'avoir vraiment commencé. À peine une bagarre, quelques plaies, quelques bosses. Rien qui ne soit impardonnable, rien qui ne soit irréparable. Aucune victime, aucune blessure qui ne soit inguérissable.
Elle est morte. Elle est morte,
murmura une voix dans le dos de Zizo. Zizo, dès la fin des combats, avait pris la main d'Alix pour s'éloigner de la fontaine au centre de la cour. Il se retourna vers la voix. Vanil, le visage en larmes derrière ses longs cheveux blonds, était penché avec Noam, l'enfant muet, sur le corps inanimé de Chrysanthe.
« Elle ne respire plus, »
répétait la petite voix.
« Elle est morte. »
Zizo lâcha Alix, courut vers le cadavre et découvrit, avec horreur, la flèche plantée dans la poitrine de Chrysanthe. Le corps de Zizo fut parcouru de spasmes. Une boule acide explosa dans son ventre et remonta jusqu'à sa gorge. « Chrysanthe, tuée d'une flèche en plein cœur. »«
Non !»
hurla une voix dans sa tête.
« Non ! C'est impossible ! Pas elle ! »
Pas cette fille qu'il avait toujours considérée comme sa petite sœur, qu'il avait toujours protégée, qu'il...
« Elle est morte, » répétait la petite voix. « Ils l'ont assassinée. »
Une voix tremblante et désespérée, une voix que Zizo reconnaissait, une voix qui n'était pas celle de Vanil, une voix qui était celle de Chrysanthe. Une nouvelle boule explosa dans son ventre, une boule de feu ardent cette fois, qui l'irradiait d'un espoir insensé. Zizo poussa sans ménagement Vanil et Noam sur le côté et se pencha pour mieux observer. Chrysanthe était recroquevillée sur elle-même, immobile, fixant du regard sans y croire la flèche qui avait transpercé le corps de paille de Lali. La poupée qu'elle pressait en permanence contre sa poitrine, lui avait sauvé la vie. Mais Chrysanthe s'en fichait. Elle berçait maintenant son enfant en chantonnant.
« Maman ne t'abandonnera jamais, mon bébé. Maman ne t'abandonnera jamais. »
Zizo souffla. Les battements de son cœur, petit à petit, retrouvaient une vitesse normale. Il avait eu si peur. Alix vint le rejoindre et resta à côté de lui, regardant Chrysanthe d'abord avec méfiance, avant de sourire. La seule victime de la bataille de la cour carrée serait une poupée de paille. Désormais, tous les enfants commençaient à sympathiser, parler, échanger, certains volubiles, d'autres timides. Seul Mordelia se tenait toujours debout, observant, incrédule, les groupes de garçons et de filles qui fraternisaient comme s'ils s'étaient toujours connus. « Un piège !» marmonnait-elle entre ses dents.
« Un piège ! Je vous aurais prévenu !»
Elle baissa les yeux vers les pavés, sous ses pieds. Dans son corps à corps avec Lunella, le sac qu'elle portait toujours en bandoulière avait glissé par terre et deux livres s'en étaient échappés. Le manuel à la croix verte et le récit de l'Iliade. Elle observa longtemps ce dernier, comme si elle cherchait à en mémoriser chaque mot, saisit son sac, vérifia que le troisième livre, celui que personne n'avait jamais vu, s'y trouvait, puis, sans ramasser les deux autres, marcha lentement en direction du fleuve. Personne ne dit un mot. Personne ne chercha à la retenir. Elle n'eut pas un regard pour Akan. Elle n'eut pas un regard pour Bill. Mais quand elle passa sous le balcon, elle fixa longuement Augénor. Tous ceux qui observèrent la scène eurent l'impression que sans dire un mot, sans même bouger les lèvres, sans même scier des paupières, Mordelia et Augénor échangeaient des secrets. Des secrets qu'aucun autre enfant sur cette terre n'était en mesure de comprendre. Puis Mordelia, sans ralentir ni accélérer, sortit de la cour carrée par la porte sud, celle qui donnait directement sur le fleuve par le pont des Arts, ce petit pont dont on racontait qu'il avait été, il y a longtemps, celui des amoureux. Mordelia n'était déjà plus qu'une petite silhouette qui se détachait dans la brume du fleuve quand des pas lourds résonnèrent derrière elle. Bill avait attendu dans la cour carrée. Il avait espéré que quelqu'un d'autre se lève. Jamais il n'aurait pu imaginer que King Bill soit le seul à faire preuve de loyauté. Puis, sans un mot, stupéfait de la lâcheté des enfants du tipi, il avait rabattu sur sa tête sa capuche de tigre et s'était lui aussi dirigé vers la sortie sud. Il marchait maintenant à pas rapides derrière Mordelia, comme un chien fidèle trottine pour rattraper sa maîtresse. Du haut du balcon, Augénor observait ce qu'il restait du champ de bataille. Le soleil venait juste de s'élever au-dessus des toits du château, et ses rayons inondaient la cour, comme s'il avait attendu que les armes soient rangées pour s'y aventurer. Les oiseaux, de plus en plus nombreux, survolaient les bâtiments, passaient d'une façade à l'autre, se posaient un instant sur les statues avant de filer vers le fleuve, le verger ou le tipi, ne laissant que quelques plumes qui, un moment, planaient puis tombaient, aussi blanches que les robes des Lolly Girls. Lunella, avec d'infinies précautions, était parvenue à extraire la flèche plantée dans l'épaule de Sabi et avait noué un foulard en écharpe entre son cou et son bras. La blessure n'était pas profonde, à peine une petite entaille, très douloureuse mais bénigne. Connectée mentalement à son frère jumeau, toujours debout au balcon du troisième étage, Lunella rassura Solario. Tout allait bien. Aucun enfant n'était grièvement blessé. Les plaies seraient vite refermées.
« Je crois que nous sommes arrivés juste à temps, » murmura Solario en se penchant vers Augénor. « Une chance !»
Augénor eut un sourire étrange. « La chance n'existe pas, pas plus que les coïncidences. Il y a toujours une explication logique. » Solario et Agnel, de chaque côté du fauteuil roulant, se regardèrent sans comprendre. Augénor était parfois si mystérieux.
« Agnel !»
cria une voix dans la cour.
« Zizo !»
Les deux meilleurs amis du monde se retrouvaient enfin. Agnel se pencha autant qu'il le put au-dessus de la balustrade du balcon et adressa un immense sourire et un grand signe de la main à Zizo. Alix se tenait à ses côtés, assise sur le rebord de la fontaine avec Lunella et Sabi.
« C'est vrai ?» fit Alix. « Qu'il ressemble à un oiseau, ton fameux ami ?»«
Pas capable de t'envoler !»
explosa soudain la voix enjouée de Sabi. La Lolly Girl avait enfin repris des forces. Elle se leva et observa les enfants occupés à compter leurs bobos, leurs bosses ou leurs boutons de pantalon arrachés.
Hey « Eh oh, les chachottes! On a autre chose à faire que de jouer aux infirmières !»
Elle arracha le foulard qui enveloppait son épaule blessée et l'agita à toute force vers le deuxième étage.
« Valère ! Eh oh, mon chou ! Tu me vois ?»
Au milieu des autres savants, Lio, Osman et Moebia, la petite tête rouge et ronde de l'enfant historien apparut à la fenêtre.
« Remue-toi, feignant ! Prends avec toi tous les savants que tu trouveras ! Ouvrir vos cages aux oiseaux a pas dû vous épuiser ! Filez aux cantines et rapportez des caisses de lollipops ! Surtout, c'est le cola ! à la menthe sauvage et les pimiento. Et du jus de pomme pétillant aussi. Et du raisin fermenté. Et tout ce qu'il restera de chocolat, de noisettes et de caramel. Qu'on fasse la